Radio Capi, grand témoin.
Bonjour, je suis Alain Héron-Mouchinge. Dans Grand Témoin aujourd'hui, je reçois Louis Watoum, président du conseil d'administration de Kipushi Corporation SA, Kiko SA, président de la chambre des Minosans de la FEC, membre du conseil d'administration de Equity BCDC, membre du conseil d'administration de Primera Gold RDC. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Louis Watoum, bonjour.
Bonjour Alain.
Comment allez-vous?
Je vais très bien, merci.
Alors dans cette émission, comme d'habitude, on va parler et de vous, et de votre parcours. Alors pour commencer, parlons un peu de votre enfance. Déjà, fils de diplomate, d'un ancien ministre, il y a un événement qui bouleverse votre enfance. À 12 ans, votre père est arrêté. Pourquoi et dans quelles circonstances?
Oui, ça c'est des choses qui nous restent dans la mémoire, parce que on a une enfance assez insoucieuse, et une belle enfance en fait, on est en Europe, et on nous demande de revenir au pays, parce qu'on ne nous avait pas tout dit en fait. Maman savait certainement, mais nous les enfants, on ne savait pas très bien. Et c'est en arrivant à Kin, on atterrit le matin, on nous conduit sur la route du Congo central, d'aujourd'hui, à l'époque c'était le Bazaïre, comme on disait, et on va droit dans une prison souterraine, qui s'appelle Luzumu. Et là, on trouve notre père, il est arrêté, il est entouré de policiers, il vient nous saluer, etc. C'est des images qui me restent. Hein. Et pourquoi? Simplement parce qu'on lui a fait un procès purement politique, il y était pour rien, et on l'a envoyé en prison pour 20 ans, pour une histoire de détournement de timbre en or. On comprenait rien de tout ça. Et à la fin, on nous a expliqué que c'était des règlements de compte politique. Et voilà, cela m'a beaucoup marqué.
Et 6 ans après, il est d'ailleurs libéré.
Ouais, 6 ans après, il est libéré, et comme c'était quelqu'un de très honnête, il n'avait pas de compte numéroté en Suisse, il n'avait rien comme investissement à l'étranger. Entre-temps, on lui avait tout pris, tout saisi. À l'époque, on confisquait tout. Il sort de prison malade, appauvri, avec rien. Il fallait recommencer la vie à zéro.
Comment vous vivez l'ambiance familiale, les parents, les frères et sœurs? Je l'ai dit, fils d'un ancien ministre, d'un diplomate, vous aviez quand même une vie assez aisée.
Oui, mais à partir de là, les choses ont commencé à se compliquer quand même, parce que entre-temps, mes parents sont séparés. Parce que mon père avait choisi d'avoir un deuxième ménage, de se marier à une autre aussi entre-temps et de faire ménage à trois. Et maman ne voulait pas de cela. Donc il y a la séparation que nous les enfants on vit, on reste avec maman. Et on quitte les milieux huppés de Kinshasa, on quitte les belles écoles comme l'école française, c'est fini. On va maintenant dans une école catholique, je vais au collège Boboto. On change de milieu, on change d'amis, on change de tout finalement. C'était assez brutal, je dois avouer.
Vous parlez d'amis, est-ce que vous avez des souvenirs des quelques amis d'enfance?
Ah oui, bien sûr, il y a quelques amis d'enfance. Comme on dit en français, on a élevé les cochons ensemble.
Citez quelques noms, par exemple.
Aujourd'hui, il y a un ami qui s'appelle Albert Lundula, depuis l'école primaire, je connaissais. Il doit être diplomate quelque part en Corée, je crois. Et un peu plus tard, il y a des amis qu'on connaît aujourd'hui un peu plus, comme Jean Goubal, par exemple. C'est tous des amis d'enfance.
Mais du point de vue de la famille, vous avez été éduqué dans la sévérité, dans l'honnêteté, dans l'intégrité.
Absolument, ce sont des valeurs qui nous ont guidés et qui continuent à nous guider à ce jour d'ailleurs.
Vous terminez vos études au collège Boboto?
Tout à fait, oui.
Et qu'est-ce qui vous amène en polytechnique à l'UNILU?
Eh ben voilà, ce qui m'emmène en polytechnique, c'est le fait d'avoir vu mon père finir mal en politique. Je me suis dit tout sauf la politique dans ma vie. Et donc, faire des études d'ingénieur en polytechnique, c'était justement un peu l'opposé de faire de la politique. Je m'étais dit, je vais faire une carrière technique, une carrière d'ingénieur. Et c'est ce que j'ai fait. J'attendais d'avoir une bourse pour partir en Belgique. Ça prenait du temps, ça ne venait pas. Et finalement, on a fermé l'UNIF, on a réouvert. À qui, je veux dire? Finalement, j'étais à l'université de Lubumbashi. C'était assez calme et on était plus concentré quand même. Parce que Kin, on a grandi à Kin. On a fait la fête hein, dans cette ville à l'époque.
Oui, parler de Kinshasa, c'est faire la fête, c'est l'ambiance. Ouais. Quelles sont les chansons à l'époque qui vous mettaient en ébullition?
Tout ce qu'il y avait de bon chez Aiko, chez Papa Wemba, Kofi Olomide, une chanson comme Asso de Kofi Olomide, par exemple, c'est des chansons qui ont bercé nos enfants. Mère supérieure de Papa Wemba.
Racontez-nous une anecdote d'enfance, soit à l'école secondaire ou à l'université.
Ah, il y en a tout plein. Je me rappelle à l'université, on avait un groupe d'amis, et chaque week-end, c'était la Gendai. On descendait à Matongé, on faisait les boîtes, on faisait les concerts. Et au petit matin, soit on dormait en famille, on remontait sur le campus, Je me rappelle même au campus, il y a certains cours qu'on séchait. J'avais un ami à l'époque. Comme on aimait bien la musique aussi de Bob Marley, on prenait les stéthoscopes chez les amis, les copains qui étaient en médecine. Essayez de mettre des stéthoscopes sur vos oreilles et mettez le point à côté d'un haut-parleur. Ça fait boum, boum. Et on aimait ça. Et donc, on mettait ça, on jouait du Bob Marley, on mettait nos têtes sous les tables de travail. Là. Et ça, c'est pendant qu'il y avait cours. Hein. Et quand on sortait de là à 19h, on courait après les amis qui étaient studieux, qui avaient été à l'auditoire.
Pour récupérer des notes.
Récupérer des notes. On était jeunes, on était fous, on faisait la fête.
De l'UNILU, l'université de Lubumbashi, ouais. Vous vous retrouvez à la Marsavco, au groupe Unilever. Comment vous y arrivez?
C'est à partir de là que j'ai commencé à connaître un peu la grâce divine. Parce que au sortir de l'UNIF en Polytech, c'était le groupe Unilever à l'époque, hein, qui recrutait à travers le monde. Il recrutait à Kinshasa, en Belgique et à Lubumbashi aussi. Et à Lubumbashi, on était à peu près 150 candidats, je crois, pour faire les concours. Hein. Puis on est resté à environ, 50, et puis à 20, et puis à 10. Et finalement, on était retenu à 2, un ami et moi, un ami qui paie à son âme. Il nous a quittés il y a quelques années. Et voilà, donc ils m'ont recruté au sortir de l'université. Ils m'ont ramené à Kinshasa et c'était cool parce que, allez, on a quitté la maison comme mon père n'était plus déjà, il nous avait quitté. J'ai fini mes études dans la maison de mon oncle paternel. Ah, mais revenir à Kin avec un travail déjà en poche, c'est une très bonne chose. Et donc, ça m'a permis quand même de commencer ma vie dans des conditions assez bonnes quand même.
Et là, vous étiez savonnier. Qu'est-ce que vous faisiez concrètement?
À l'époque, il y avait des savons qui se vendaient très bien. Il y avait Rexona, il y avait, je sais plus très bien. Ah, un des meilleurs savons à l'époque, c'était Monganga. Je peux vous assurer, en tant que savonnier, c'était et ça reste un des meilleurs savons hein, qui soit. Je le recommanderais, comme on dit, sans modération.
Mais de la Marsavco, groupe Unilever, vous vous retrouvez à la Gécamines.
Ouais.
Comment ça se passe une fois de plus?
Oui, parce que j'ai passé quelques mois à Marsavco. Très, très belle école de vie en termes de management et tout ça. C'est très anglo-saxon à l'époque. Mais la Gécamines offrait un peu plus quand même. Vous savez, quand vous êtes jeune, vous avez une vue assez limitée des choses. Pour vous, c'est le matériel, c'est l'aisance matérielle qu'il faut, etc. Et à l'époque, la Gécamines offrait déjà aux jeunes ingénieurs des bons crédits pour s'installer, pour s'acheter une voiture, être logé décemment, etc. Et donc c'est tout ça qui m'avait attiré un peu. Mais aussi, les mines, quelque part, pour avoir fait Polytech à Lubumbashi, c'est très minier là-bas. Hein. Et ça commençait déjà à m'attirer. Donc, je me suis dit, je vais dans les mines. J'ai quand même organisé des concours de recrutement à l'époque. Je les ai faits dans le bâtiment qu'on appelait Sosacom ici. Et ça s'est plutôt bien passé. J'ai été recruté comme ingénieur de production en pyrométallurgie, c'est-à-dire travailler avec les fours à haute température là, pour produire du cuivre et du cobalt.
Dans une interview que vous avez accordée à notre consoeur Muriel Deve Malumalu, vous dites ceci, je vous cite, « J'étais dans la salle des ingénieurs, quand la porte s'ouvre, débarque une vingtaine de gars survoltés qui me demandent de dégager. L'un d'eux me menace avec un seau d'acide sulfurique. J'ai compris que je devais partir. » Qu'est-ce qui s'était passé?
Oui, ça c'est un des tournants de ma vie. Ça devenait très politique à l'époque. En fait, l'horizon politique du pays commençait à devenir orageux et les politiques commençaient à s'agiter. Il y avait des problèmes de régionalisme, de tribalisme, etc. Et moi, je ne savais pas, étant quinois, entre guillemets, travaillant à l'ICACI, je n'étais pas très dans les milieux et je ne savais pas qu'un mot d'ordre avait été donné la veille, que demain, on ne veut pas voir les non-originaires ici. Non-originaires du Katanga, je veux dire, du Shaba, comme on disait à l'époque. Et moi, je ne savais pas. Je suis venu le matin avec ma petite choupette, que je l'appelais, j'avais une petite mini Maurice à l'époque, je l'ai garée, j'étais dans la salle d'ingénieur. On commence assez tôt là-bas, vers 6h du matin, on regarde dans la salle d'ingénieur, on regarde les graphes de production de la veille et tout ça. Et c'est quand cet incident s'est passé. J'étais avec 5 de mes collègues, on entend du bruit et puis la porte s'ouvre brutalement, il y a une dizaine, une vingtaine, je ne sais plus le nombre, parce que ça s'est passé très vite. Ils ont chahuté dans la salle d'ingénieur et ça m'a pris une fraction de seconde pour comprendre que c'est de moi qu'il s'agissait. On me demandait de dégager, parce que leur leader s'avançait déjà avec un seau d'acide sulfurique pour verser ça sur moi, au cas où je résisterais. Mais là, on résiste pas. J'ai mis les mains en l'air, j'ai demandé qu'on me permette de sortir. Et d'abord, j'ai posé la question à mes collègues ingénieurs, est-ce que vous voyez ce qui se passe? C'était bizarre, et ils n'avaient rien vu, ils n'avaient rien entendu. Ils étaient dans leur chiffre. Et donc finalement, pendant que justement je posais la question, c'est quand le leader s'avançait vers moi. J'ai dit non, c'est peine perdue, il faut arrêter ça. Et j'ai mis les mains en l'air, je suis sorti. Juste le temps de récupérer ma petite serviette et repartir vers le parking pour démarrer ma voiture, mais c'était sous des insanités, des insultes et tout ça. Et j'avais peur, en fait, qu'il me suive et qu'il m'asperge d'acide dans mon dos. Et donc j'avais très peur quand même, je dois avouer. Mais finalement, j'ai pu démarrer et partir et c'était mon dernier jour à la Gécamines.
Et pour les jeunes qui vous suivent aujourd'hui, qui n'ont peut-être pas une idée particulière de ce que ça représente, être dans une situation pareille dans un pays, qu'est-ce que vous leur donneriez comme leçon de vie?
Ben aujourd'hui, avec le recul, je demande à tout le monde, à tous ces jeunes-là, d'avoir beaucoup de foi en un être suprême. Parce que il y a ce qu'on fait, Alain, toi et moi, en termes de travail, en termes de sérieux, en termes d'engagement, etc. Et puis, il y a le fait d'être là où il faut, au moment qu'il faut, et rencontrer les personnes qu'il faut. Ça relève du divin. Et donc, il faut avoir un peu de foi aussi en cet être-là. Et puis, continuer, voilà. Se dire, s'il y a des gens qui veulent pas de toi dans la vie, c'est leur problème, c'est pas le tien. Ça devient le tien lorsqu'il t'empêche à réellement réaliser tes rêves. Et alors là, il faut apprendre à se battre dans la vie, malheureusement. Ça fait partie aussi de la vie.
Et pour réaliser vos rêves, vous décidez de faire un saut un peu dans le vide, aller en Afrique du Sud. Et là, vous confiez votre femme et vos enfants à votre belle famille. Ouais. Vous allez en Afrique du Sud pendant le temps de l'apartheid. Vous ne parlez pas anglais.
Oui, c'était encore pénible. Déjà le départ, allez, je venais de me marier il y avait à peine une année. Et c'était un peu encore la lune de miel qui s'arrêtait brutalement comme ça. Donc j'ai dû laisser ma femme et mon fils, qui n'avaient quelques mois, dans ma belle famille, donc dans la famille de ma femme à Lubumbashi. Et j'ai pris un camion, en fait. Les camions qui ramenaient du cuivre, du cobalt vers l'Afrique du Sud. Donc. Et à la frontière, je me rappelle, j'ai vu un aîné qui m'a vu et qui savait ce qui s'était passé. On avait tous les yeux humides. Hein. Mais comme on dit, les adieux brefs sont toujours les meilleurs. On n'a pas beaucoup parlé, je continue, je suis parti. Et en Afrique du Sud, voilà, il fallait chercher. Il fallait toquer aux portes. Et c'était encore très, très conservateur à l'époque. C'était pas toujours très bien vu de te voir venir comme ça. Et un des rares pays où on m'a demandé, mais tu viens chercher quoi ici?
Et vous habitiez un studio que vous appeliez Stade de football. Pourquoi?
Ben, je l'appelais Stade de football parce qu'il n'y avait rien. C'était un terrain vide. Parce que finalement, comme j'arrivais pas à trouver du travail, je suis rentré dans l'académique. Et j'ai commencé à faire de la recherche post-graduate à l'université de Witwatersrand. Et donc j'avais un professeur qui me payait juste une petite prime, même qui me permettait quand même d'avoir payé le loyer d'un studio. Et ce studio-là, je l'appelais Stade de football justement parce que il y avait aucun mobilier. Si ce n'est une sorte de matelas que j'avais mis à même le sol. Et c'était tout. Hein. Et donc si j'avais un visiteur, on se met tous sur le matelas. Et ma femme était là et mon fils était là aussi. Donc c'était un stade de football. Voilà.
Voilà, justement, nous allons suivre une personne, un invité surprise qui va vous saluer.
D'accord.
Bonjour chers auditeurs et auditrices de la radio Okapi. Je m'appelle Fanny, Madame Watum. Nous sommes mariés il y a de cela 30 ans, mais on se connaissait déjà 3 ans va cela. Wow. Alors lui Watum, il est un monsieur bien, organisé, bien élevé. Il travaille beaucoup, il est courageux, il est humble, il est amusant, un bon papa pour nos enfants. Il m'a beaucoup aidé avec les enfants quand ils étaient petits. Alors, ce que je n'aime pas de lui, il est sévère envers les enfants, mais je trouve que c'est aussi une bonne chose parce qu'il faut serrer un peu. Ça a beaucoup aidé les enfants. D'ailleurs, ils sont en train tous de terminer leurs études. Mon mari m'a beaucoup soutenue pendant mes études universitaires. Je me suis mariée juste après le bac, c'était mon choix. Mais je croyais que ça allait être facile. C'était pas facile avec 3 enfants à la main. Il était là pour moi. Il m'a beaucoup soutenue. Je me rappelle à un moment, j'étais malade. J'avais fait une paralysie faciale. Mon mari n'arrêtait pas de me dire que j'étais jolie. C'était pendant la grossesse. Et il était là pour moi, m'assurer que ça allait bien se passer. Dieu merci, après l'accouchement, ça s'est bien passé. Alors, je ne peux que lui souhaiter de tout mon cœur plein de succès dans tout ce qu'il est en train de faire. Plein de succès dans l'avenir, qui continue d'être celui qu'il est, et de faire ce qu'il est en train de faire. Courage, chérie. Que Dieu te bénisse.
Wow. Réaction.
Bah, Alain, tu sais, là, j'ai les yeux humides. Ça, je m'attendais à tout, sauf à entendre ça. Très franchement, tu m'as eu, mais tu m'as bien eu. Je ne sais pas d'où est partie l'idée, mais en tout cas, ça me met les droits au cœur. Et si elle nous écoute là où elle est, je dis, chérie, je t'aime. C'est ma meilleure amie, compagne, confidente, conseillère et tout le reste. Je n'en reviens pas encore de l'avoir écoutée comme ça. Merci en tout cas.
Je vous en prie. Et pour revenir sur l'expérience de l'Afrique du Sud, avec elle, c'était des moments difficiles, vous l'avez dit. Oui, et puis vous avez su ensemble vous relever et vous tenir main dans la main. Vous avez fait face au racisme. Comment vous avez vécu ça?
Ah, c'était dur quand même. Hein. C'était dur et... En fait, c'est toutes ces expériences qui ont construit la foi que j'ai aujourd'hui en Dieu. Parce que, rendez-vous compte, vous êtes 5, 6 dans une salle et vous êtes le seul noir. Parce que c'était très conservateur, très right-wing, comme on dit là-bas. Et le boss, il entre, il salue tout le monde et vous, il vous salue pas. Et vous lui rappelez poliment, boss, vous avez oublié de me saluer. Il me dit, mais je vous ai pas vu.
Wow.
Bon, je suis le seul black et je suis le plus élancé de tous avec ma taille, avec ma corpulence. Vous m'avez pas vu. Allez-y comprendre quelque chose. Après 2-3 ans de travail, tous les amis, tous les collègues ont eu des promotions. Parce que là, j'étais dans le charbonnage à Witbank. Et moi, rien du tout. Alors que j'étais un peu une sorte de coach à tous ces gars-là. Parce que j'étais un peu plus âgé qu'eux. Je suis venu avec l'expérience de la Gécamine déjà, qui était pas mal à l'époque. Et rien n'était reconnu. Quand je demande de voir le chef, il me reçoit. Et je lui dis, écoute chef, je viens me voir sincèrement pour vous demander... de me dire un peu si un truc qui marche pas avec moi. Parce que j'ai envie de m'améliorer aussi et pouvoir prétendre à une promotion parce que tout le monde avance et moi j'ai l'impression de faire du surplace. Il me regarde, il me dit poliment, ben oui, tu l'as très bien dit, tu fais du surplace et les autres avancent. Mais les autres avancent parce qu'ils sont simplement mieux que toi. Voilà. Maintenant, la porte est là, tu peux partir. Ben, écoute, des trucs comme ça, c'est des trucs qui vous déchirent quand même.
Et le mieux pour lui, ça s'est résumé à la couleur de la peau.
Tout à fait, tout à fait.
Voilà, je vous ai entendu parler depuis le début d'un être suprême, de Dieu, votre femme également. Et je sais que dans la musique, vous êtes très gospel, c'est Mozart, c'est Handel. Et je vous dédie à vous et à votre femme la chanson que nous allons suivre.
Super.
Est-ce qu'on peut faire comme dans un concert? C'était super.
Alain, tu m'as emporté. Là, tu m'as emporté. Mais dis-moi, est-ce que tu n'as pas entendu les anges chanter là?
C'était formidable.
Magnifique.
Radio Capi, grand témoin.
Voilà, grand témoin pour ceux qui viennent de nous rejoindre, reçoit Louis Watoum. Il est président du conseil d'administration de Kipushi Corporation SA, Kiko SA, président de la chambre des mines au sein de la FEC, membre du conseil d'administration de Equity BCDC, membre du conseil d'administration de Primera Gold RDC. Louis Watoum, nous avons commencé déjà à parler de votre expérience professionnelle. Vous nous avez raconté l'épisode de Witbank à Johannesburg, où vous êtes engagé en 1995. De là, en 2006, vous revenez en RDC.
Oui, je reviens en RDC parce que il y a quelqu'un qui m'a parlé d'un très beau projet qu'il y avait en RDC et qui se trouvait dans la Grande Orientale, comme on disait à l'époque, comme on dit aujourd'hui, en province orientale. Et donc, ça faisait une quinzaine d'années que j'étais en dehors du pays. J'ai demandé de revenir voir ce projet d'abord. Et je suis venu, et Alain, j'ai eu le choc de ma vie parce que je me suis levé le matin, là où j'étais, c'était à Ouattara. J'ai regardé le matin les enfants qui allaient pieds nus à l'école, et j'ai fait un tour dans les centres de santé qu'il y avait là-bas, qu'on appelait maternité. Les femmes qui mettaient au monde à même le sol, dans des conditions tout à fait indignes de nous les humains. Et j'ai pleuré, j'ai eu les larmes aux yeux, je me suis dit, c'est incroyable ça. D'un côté, on me montre une richesse fabuleuse en termes de gisements d'or. De l'autre côté, on me montre une pauvreté qui
contraste avec cette réalité.
Simplement révoltante. Et c'est la première fois dans ma vie que j'ai accepté un travail sans demander de l'argent, sans demander un contrat. Ou du moins un contrat qui se limitait à ce qu'on puisse simplement assurer que mes enfants puissent quand même aller à l'école dans le pays dans des bonnes conditions. C'est tout ce que je voulais. Les salaires ne m'intéressaient pas. C'était relever ce défi-là. Et c'est ce qui est devenu aujourd'hui la mine qu'on appelle Kibali, là-bas. À l'époque, il y avait moins de 9000 personnes. C'était très petit. Aujourd'hui, on parle de près d'un million de personnes. Donc, on a quand même su créer une sorte de pôle de prospérité, finalement, qui a su attirer beaucoup de demandeurs d'emploi et beaucoup de demandeurs d'opportunités d'affaires.
De là, vous rejoignez le Canadien Ivan Noé en 2014.
Oui, c'est ça. Donc j'ai pris le projet de Kibali de pratiquement zéro jusqu'au premier lingot d'or. Quelques temps après, j'ai été rejoindre Ivan Noé, comme vous dites, parce que là, c'était encore un autre challenge. On était en train de découvrir un des gisements les plus beaux, les plus grands au monde, finalement, de cuivre. Et donc c'était aussi une belle aventure. On a démarré ce projet-là et aujourd'hui il est en production et il fait la fierté de tout le pays.
Alors nous allons prendre pour vous cette question.
Ouais. Bonjour Monsieur Louis Atoum, je suis Cynthia Bachizi, journaliste à la Radio Okapi, journaliste surtout spécialisée dans les questions minières. Alors aujourd'hui, la corporation des miniers que vous représentez à travers la Chambre des Mines au sein de la FEC semble surtout préoccupée par la gouvernance du secteur. Je m'explique, nous avons un cadre légal, c'est le code de 2018, mais dont l'application pose quelquefois problème, surtout dans la partie est du pays, où les titulaires des titres miniers sont confrontés à l'envahissement de leur périmètre minier par les exploitants miniers artisanaux. Autre grand défi, c'est surtout le défi sécuritaire. La plupart des sites miniers sont dans des zones avec une forte présence des groupes armés, et donc la plupart des projets miniers sont soit en force majeure ou mis en veilleuse. Alors comment rassurer les investisseurs dans ce contexte? Deux urgences aujourd'hui font l'unanimité dans le secteur. D'abord, il faut investir dans la connaissance de nos gisements. Il est établi que nous ne connaissons que 19% de nos gisements. Autre urgence, c'est surmonter le déficit énergétique. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Comment y mettre fin? Quelles sont les pistes de solutions que vous préconisez pour inverser la tendance et arriver donc à une meilleure connaissance de nos gisements et mettre fin au déficit énergétique qui plombe l'industrie minière?
Merci Cynthia Bachizi. Réaction Louis Watoum.
Merci Cynthia, très bonne question, très pertinente, mais il y en a plusieurs là.
Oui.
Je vais essayer de les résumer et j'espère que je ne vais pas en rater une.
Effectivement.
En commençant par la situation à l'est du pays, vous avez tout à fait raison. Il y a une situation d'abord sécuritaire qui ne permet pas qu'on puisse attirer des investissements là-bas. Il y a des sites qui sont envahis, comme vous le dites, mais lorsque vous regardez la situation sécuritaire à l'est, j'ai toujours dit que c'est avant tout une question de pauvreté, de manque d'investissement sur plusieurs décennies. en termes de capacité pour la femme rurale, en termes d'éducation, en termes de santé, en termes d'administration, etc. La capacité institutionnelle même manque dans toutes ces contrées-là. Et donc, il est très difficile de parler gouvernance. Il n'y a pas d'autre raccourci, il n'y a pas d'autre choix. Il faut investir abondamment. Aujourd'hui, dans le corridor de Haru à Huacha, par exemple, sur toute cette distance-là, près de 180 km, je crois, si je ne m'abuse, il n'y a pas une seule milice, il n'y a pas un seul coup de feu qui est tiré. Pourquoi ? Parce qu'on a créé un pôle de prospérité économique. Parce que toute la jeunesse qui se réveille le matin va chercher soit une opportunité d'emploi ou d'affaires, n'a pas besoin de prendre une Kalachnikov et commencer à faire de la violence autour. Donc il faut que les investissements viennent. Maintenant, c'est un peu, philosophiquement, c'est un peu comme la poule et l'œuf. Qu'est-ce qui vient avant ? C'est la paix d'abord pour que les investissements viennent ou les investissements viennent pour mettre la paix ? Je crois que les deux vont ensemble, finalement. Et donc, pendant que nos dirigeants, nos responsables politiques mettre les batteries en marche pour qu'on puisse asseoir la paix, il faut que les investissements aussi suivent aussi. Et sinon, on ne va pas s'en sortir.
Et donc, en d'autres termes, les mines ne sont pas une malédiction pour la RDC ?
Non, pas du tout. Mais les mines demandent d'avoir une vision, d'abord. Qu'est-ce qu'on veut faire de nos mines ? Et puis alors, se donner les moyens de cette vision-là. Et Cynthia parlait tout à l'heure du déficit en énergie et autres. C'est très vrai. Il faut absolument investir dans l'énergie. C'est pour cela que nous saluons des pionniers comme Eric Monga, qui sont en train de faire du très bon travail dans le Katanga avec cette centrale photovoltaïque qui est en train de démarrer. Mais il n'y a pas que les déficits énergétiques, il y a le déficit d'infrastructures aujourd'hui. Quand vous allez au niveau de Kasumbalesa, par exemple, ça devient assez fréquent de voir des files de camions de plus de 50 km. Tout cela veut dire que on atteint une production telle que maintenant les voies de sortie commencent à étouffer cette production. Nous avons franchi le cap des 2 millions de tonnes de cuivre l'an. Ce cuivre doit être expédié en dehors du pays. Et on n'a pas assez d'infrastructures pour cela et ça commence à freiner aussi l'industrie. C'est toutes ces choses auxquelles il faut regarder.
Alors un autre volet de la question de Cynthia, c'est tous ces exploitants artisanaux qui vont dans les mines des multinationales. Comment équilibrer tout ça ?
Je crois qu'avant de répondre à la question, j'aimerais quand même ajouter une chose. Ça, c'est une innovation de nos dirigeants, chefs de l'État notamment, avec la création de Primera Gold, qui est un partenariat avec les pays arabes. Lors de la conférence de presse hier, j'ai montré quelques chiffres. Pour toute l'année 2022, l'exportation de l'or artisanal pour toute la République était de 42 kilos d'or, pour toute la République. Primera Gold a commencé ses expéditions d'or en janvier cette année, et après 3 mois, rien que pour la province du Sud Kivu, parce qu'on exporte à partir de Bukavu pour le moment, on en est déjà à plus de 650 kilos d'or. C'est pour vous dire qu'énormément d'or est parti non déclaré par des voies qui ne sont pas toujours légales, par les pays voisins, par nos frontières qui sont poreuses. Et donc il y a énormément de travail à faire dans l'artisanat. Je crois que Primera Gold est un premier pas d'un long voyage. J'ai cette chance et ce privilège d'être administrateur aussi dans Primera Gold. Je parle avec des chiffres qui sont réels, qui sont concrets. Maintenant, l'artisanat, encore une fois, je dois avouer une chose, dans la durée, l'artisanat ne saura jamais se justifier. Parce que quand vous regardez tout le côté négatif de l'artisanat aujourd'hui, le taux de déperdition scolaire, le taux de grossesse précoce qu'il y a dans ces sites-là, le taux de banditisme, de prostitution, de pollution, etc., le compte n'y est pas. Mais cependant, quand on parle aujourd'hui de plus de 2 millions d'artisanaux en RDC, ça devient un vrai problème, devant y regarder, y trouver des solutions. La solution, je pense, elle est multidimensionnelle. Il faut d'un côté assainir et sécuriser ces artisanaux-là, leur donner des conditions de travail moins pénibles d'un côté, mais de l'autre, créer des voies de sortie de l'artisanat. L'artisanat ne peut pas continuer indéfiniment, parce que l'artisanat cause beaucoup plus de dégâts qu'on ne pense. Lorsque vous laissez un site envahi par l'artisanat minier, dites-vous bien que l'artisanat ne sait pas aller au-delà de 60 ou 100 mètres. C'est déjà trop profond pour l'artisanat. Mais entre-temps, ils ont stérilisé toutes les ressources qui sont en dessous de cela. Ça veut dire qu'il n'y a aucune multinationale sérieuse qui viendra investir en capital et en technologie pour aller chercher ce qui est en dessous là-bas, parce que c'est envahi de milliers d'artisanaux. Et c'est le pays qui perd finalement. Et donc, il faut que ces artisanaux puissent être dans des schémas où on leur apprend des corps de métier, on les forme pour les projets des grands travaux et autres, la maçonnerie, l'électricité, la plomberie. Il faut les éduquer, il faut leur apprendre un métier et petit à petit les sortir de cela. Ça ne peut pas continuer indéfiniment.
Vous avez travaillé dans plusieurs pays à travers le monde, mais une autre difficulté citée par notre collègue Cynthia, c'est que l'on n'est pas encore parvenu en RDC à bien évaluer le potentiel minier.
Oui, cela est bien vrai et c'est bien dommage, parce que d'abord j'aimerais dire une chose. Les mines commencent par la géologie, se développent par la géologie et finissent par la géologie. C'est avant tout la géologie. C'est pour cela que dans notre jargon des miniers, Nous appelons les géologues les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu parce qu'un gisement, c'est un acte de Dieu, en termes légaux. C'est un acte de Dieu, un gisement. Maintenant, c'est celui qui met des dollars d'exploration dans le sous-sol pour découvrir ces gisements-là, qui demain construit les mines. Et si on n'arrive pas à tirer des dollars d'exploration, c'est que demain on ne construira pas les mines. Aujourd'hui, quand vous prenez les pays d'Afrique de l'Ouest en agrégat, vous prenez le Mali, le Burkina Faso, le Sénégal, Guinée, etc., vous les prenez en agrégat, au kilomètre carré, ils attirent 5 à 6 fois plus de dollars d'exploration que la RDC. Et pourtant, la RDC a une dotation minérale qui est la plus grande, la plus exceptionnelle au monde. Pourquoi on n'arrive pas à attirer ces dollars d'exploration? C'est parce que nous devons revoir notre politique pour attirer ces investissements-là. Nous devons avoir des politiques qui sont rassurantes auprès des investisseurs. Nous devons avoir des stratégies pour les attirer et pour les pousser à investir. Et nous devons avoir une politique interne en nous-mêmes. Nous avons des géologues que nous formons ici au pays, qui sont extrêmement compétents. Nous devons les équiper, nous devons leur donner des moyens pour qu'ils aillent sur le terrain et qu'ils découvrent les gisements. Pourquoi nos gisements doivent-ils toujours être découverts par des géologues qui sont venus d'Australie et de Canada, alors qu'on a des géologues tout aussi compétents chez nous? J'en appelle à nos autorités de pouvoir beaucoup investir dans la géologie, de prendre tous ces jeunes qui terminent et ne pas les pousser toujours à aller chercher du travail dans les multinationales, mais les pousser à s'organiser en structure que notre gouvernement peut financer pour qu'ils aillent découvrir des gisements. Et ces gisements, ce sera justement pour construire les mines de demain.
Aujourd'hui, il y a une autre question importante, c'est exploitation minière et protection de l'environnement. En rapport avec la RDC, c'est une question épineuse.
Oui, tout à fait. On parle beaucoup d'environnement, de réchauffement climatique, de tout ce jargon-là. Mais on se dise une chose, lorsqu'on construit une mine, avant de la construire, la loi exige que vous présentiez un plan de gestion environnementale et de tous les problèmes environnementaux qui seront générés par cette mine-là. Et comment vous allez terminer vos opérations lorsque vous aurez épuisé ce gisement-là? Et comment vous allez rendre à la nature ce que la nature vous a donné après? Et donc, du point de vue théorique, du point de vue de la loi, tout est bien défini. Maintenant, c'est le respect de cette loi-là. Et c'est peut-être là que le bât blesse dans plusieurs domaines de notre secteur. Le code minier, il est là. Il y a des très belles clauses, de très belles résolutions, mais c'est dans l'application. Si on se mettait à appliquer ce code minier tel quel, je crois que le pays s'en porterait très bien. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, malheureusement, c'est le code minier peine à être appliqué correctement. Et les miniers, nous, les miniers, on se plaint souvent d'une fiscalité et d'une parafiscalité que nous qualifions de punitive parce qu'elle est tout simplement excessive. Lorsque le code minier, par exemple, vous parle d'un guichet unique qu'il faut avoir, vous vous retrouvez en face de cinq ou six guichets uniques. Et chaque guichet est unique en son genre. Et on dévie de la loi. Et c'est toutes ces choses-là qui... C'est un peu ce qu'on appelle les sujets qui fâchent. Et pour lesquels il faut remédier. Mais l'avantage, c'est que nous avons des dirigeants, un gouvernement qui est ouvert au dialogue. Au niveau de la Chambre des mines, certainement, nous avons cette chance-là de parler à nos différentes autorités. Et nous trouvons souvent une oreille attentive. On discute et on essaie de régler les problèmes comme on peut. Mais il y a encore beaucoup à faire.
Et vous, les miniers, vous êtes souvent accusés de ne pas respecter les cahiers des charges. Vous avez parlé tout à l'heure de l'exemple de Kibali, où vous aviez vu des enfants aller à l'école pieds nus, mais il y a beaucoup de zones où il y a des multinationales, pas d'école moderne, pas d'infrastructure. Comment vous expliquez ça?
Oui, c'est vrai, je crois qu'on a accusé les miniers de beaucoup de choses négatives. Mais je dois dire que, et encore ça c'est une innovation du code minier auquel Cynthia faisait allusion tout à l'heure, les paiements infranationaux aujourd'hui, qui constituent à payer 0,3% de votre chiffre d'affaires, il y a la redevance minière, il y a aussi ce cahier de charges dont vous parlez, ce sont des innovations qui apportent beaucoup dans les entités territoriales décentralisées. Aujourd'hui, on voit des dizaines d'écoles, on voit des milliers d'hectares, etc., qui sont faits à partir des retombées, justement, de ces paiements-là. Par contre, je pense que nous devons vraiment nous poser une question fondamentale. Où vont certains de ces montants? Allez, je vous donne un exemple. Prenez la redevance minière, par exemple. Qui a des effets très positifs au niveau tant national, provincial, que des entités territoriales décentralisées. Alain, rendez-vous compte, pour l'année 2022, qui vient de se terminer, si je prends seulement les deux provinces phares, du Lualaba et du Haut-Katanga, Cette redevance minière s'élève à 1,2 milliard de dollars. Je dis bien 1,2 milliard de dollars. Et je parle de deux provinces seulement. Maintenant, 1,2 milliard de dollars, c'est un chiffre. Hein? Mais laissez-moi vous dire ce que ça veut dire en termes concrets. Ça veut dire 12 000 écoles pour la République. Ça veut dire 128 universités qu'on pouvait construire. De même que 128 grands hôpitaux qu'on pouvait construire. Ça veut dire 600 km de route qu'on pouvait asphalter. Ça veut dire 400 mégawatts d'électricité qu'on pouvait pour réduire le déficit énergétique. Mais où va tout cet argent? Et pour vous, à titre de rappel, le fameux programme des 145 territoires, il est 1,6 milliard de dollars. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que si deux provinces peuvent déjà réunir 1,2 milliard de dollars, cette redevance peut financer un programme des 145 territoires jusque quand Jésus reviendra. Chaque année, on pourra le faire. Mais où va cet argent?
Un problème de gouvernance.
Absolument.
Alors, il y a aussi cette question des sociétés chinoises qui dominent de plus en plus l'espace minier, notamment au Katanga, le Lualaba. Comment vous expliquez ça? Est-ce une menace ou un avantage pour le pays?
D'abord, on doit d'abord reconnaître une chose, ce que la Chine a fait pour nous, en apportant ses capitaux en termes de milliards de dollars. Ce sont ces investissements qui ont permis d'ouvrir la RDC au monde, au grand business du monde, de faire de la RDC un pays qui joue dans la ligue de 2 millions de tonnes de production par an, qui fait de la RDC un pays qui produit tout ce cobalt, etc. C'est grâce aux investissements chinois. Et cela a pu créer des dizaines de milliers d'emplois, directs ou indirects. Ça, on doit le reconnaître quelque part. Maintenant, c'est vrai, ce n'est pas parfait. Il y a énormément à dire dans les conditions de travail, et même dans les relations que ces investisseurs ont avec le pays aujourd'hui. Parce que, en ma qualité de président de la Chambre des mines, lorsque j'ai accepté ce mandat, j'avais dit très clairement que la Chambre des mines ne sera pas un syndicat du crime. Je vais diriger des entreprises qui sont citoyennes, qui sont respectueuses des lois et du cadre réglementaire de notre pays et qui vont conduire leurs affaires dans ce pays en toute transparence. Et de ce côté-là, il y a le bas qui blesse quand même. Il n'y a pas toujours assez de transparence, il n'y a pas toujours assez de tout ce qui doit être entreprise citoyenne. Mais c'est un travail auquel il faut s'atteler. Les Chinois sont là, ils ont investi. Ils sont en train de dominer le secteur minier, en tout cas en ce qui concerne le cuivre, le cobalt, et pour le moment. Mais on ne peut pas leur en vouloir, parce que les mêmes opportunités ouvertes aussi au monde occidental, qui a préféré plutôt nous donner des leçons de gouvernance, de moralité, etc., et les autres en investir. C'est plutôt à eux maintenant, aux autres partenaires économiques du pays, de venir rejoindre le train qui est en marche, et investir aussi au pays. Mais ici, j'en appelle aussi aux investissements locaux. Il n'y a aucune raison pour laquelle les Congolais ne peuvent pas aussi investir dans ce secteur. Nous voulons voir des capitaines d'industrie congolais qui puissent aussi investir dans ce secteur.
Et quand aujourd'hui une question comme celle des contrats chinois ressurgit, qu'est-ce que vous vous dites? La responsabilité, elle est pour la plus grande du côté des Congolais qui doivent s'assumer.
Oui, la responsabilité, elle est partagée. C'est vrai, certains contrats ont été mal négociés. Mais nous sommes allés de révision de contrat minier en révision de contrat minier, et on peut continuer à le faire au point à créer une sorte d'insécurité juridique. Moi, je crois, quand on regarde la dotation minérale de la RDC, tout ce qui a été exploité à ce jour, je pense sincèrement que c'est moins de 5% de la dotation minérale de ce pays. Mais qu'est-ce qu'on fait du reste qui est encore vierge? Pourquoi n'allons pas nous concentrer sur un New Deal où nous cherchons des financements, des investissements et du développement, et nous faisons la recherche pour identifier ce qui peut être développé et le développer. Il y a énormément à faire. On ne va pas passer tout notre temps à se disputer sur les contrats existants. C'est vrai, il faut négocier pour des rapports gagnant-gagnant, certainement, mais je crois qu'on doit regarder aussi au-delà de cela, parce que nous avons beaucoup plus que ça, et qui est dormant pour le moment.
Alors, il y a une philosophie sud-africaine, vous avez travaillé avec les Sud-Africains, une philosophie australienne avec qui vous avez travaillé, il y a actuellement une philosophie chinoise, de laquelle des trois la RDC devrait s'inspirer?
Je crois que la RDC devrait être pragmatique. Pragmatique, c'est-à-dire apprendre le mieux de tous ces, de tous ces pays-là. Les Sud-Africains ont un côté assez abrasif, mais dans leur façon de faire, mais ils obtiennent des résultats. Il faut le faire. Les Australiens, peut-être parce que beaucoup de leurs ancêtres sont des repris de justice d'Angleterre qui sont retrouvés là-bas, ils ont une façon non conflictuelle de faire avancer les affaires, mais ils ont aussi, ils produisent des résultats. Donc ils sont un peu plus, il y a plus de cordialité dans leur façon de travailler. C'est des bonnes qualités. Les Chinois, ils ont aussi leur façon de faire. Ils sont très stratèges, ils voient très loin et ils sont travailleurs. Et ils sont disciplinés. Je crois que c'est toutes ces qualités qu'il faut quelque part avoir.
Voilà. Alors nous allons souffler encore un tout petit peu avec cette chanson de Jacques Chimankinda qui fait du folk blues, folklore mélangé au blues à la congolaise.
Ouais.
Kombo akale wanka yenda mujifuka yo Virimu kulumu weka buchondo ambisha walala wanywe yo Janu neva kabintu andaye Balena haki jilangu ambila miali di miula mtenta mumuchima wanyeo Kade kumpala kwa kwambila mianda nde kantu misha jina jeva mwenze juwa malu wanywe yo Chimankinda wa masungula manene Mukalanse mwere na jondo mwere wa jondo ambisha malala wanywe Ndi musasa wa mesu kama lubi lanshu lwa maluvu nkambeo Muntanda kalombu kwa tuji nukwenda mchadi weyo Suika chini kelenda
Wow, Jacques Chimankinda.
Wow.
Il n'y a pas que les mines au Congo. On a aussi des mines sur le plan culturel.
Incroyable. Incroyable. Mais c'est une grande richesse culturelle, ça.
Absolument.
Le grand témoin.
Oh, Capi. Grand Témoin reçoit aujourd'hui Louis Watoum. Il est président du conseil d'administration de Kipushi Corporation, président de la Chambre des mines au sein de la FEC, membre du conseil d'administration de Equity BCDC, membre du conseil d'administration de Primera Gold RDC. Louis Watoum, en 2020, vous l'avez dit, vous êtes élu président de la Chambre des mines de la RDC. Comment vous faites à la fois pour jongler entre les intérêts des miniers et les intérêts de l'État?
Là, je dois t'avouer que ce n'est pas facile du tout. Parce que c'est vrai, l'investisseur apporte les capitaux, la technologie. C'est vrai, il doit conduire ses affaires avec le plus de transparence possible et transmettre aussi les connaissances et former localement, etc. Mais il attend en retour un retour d'investissement. Il attend que les règles du jeu qui sont définies ne puissent pas bouger, ne puissent pas changer, parce que souvent les retours, les repayements de ces investissements s'étalent sur plusieurs années. Et donc il faut une stabilité du point de vue cadre fiscal, etc. Mais du côté du pays, on veut bien sûr une sorte de nationalisme des ressources naturelles. On veut maximiser les recettes. Et on a tendance parfois à augmenter le fardeau fiscal sur et justement, il faut trouver le juste milieu. Je ne sais pas vous le dire comment, mais c'est pas facile du tout. Et souvent, comme je l'ai dit toujours, on fait l'expérience de ce qu'on appelle, les anglo-saxons disent un terme qu'en français, qui en français veut dire la solitude du coureur de marathon à longue distance. C'est-à-dire, à un moment donné, il n'y a plus la foule pour vous acclamer. Il n'y a que cette montée, vous êtes seul, il n'y a plus personne pour vous aider, vous donner un verre d'eau. Et vous avez mal dans tous les muscles, il n'y a plus que votre mental et votre foi qui vous soutiennent pour aller jusqu'à l'objectif. Parce que ce n'est pas facile, c'est presque irréconciliable, mais il faut le faire.
Alors avec un peu de recul, quel regard vous portez sur les miniers que le commun de mortels considère comme des capitalistes prêts à tout sacrifier, à tout détruire? L'essentiel pour eux, c'est qu'ils gagnent leurs bénéfices.
Je dis toujours à tous les miniers, à tous les capitaines de l'industrie, et si au risque de sonner comme un disque rayé, parce que je le dis très souvent, le but ultime de faire du mining, ce n'est pas de faire de l'argent. Voilà. L'argent n'est qu'un moyen pour arriver à cette fin, à ce but ultime. Parce que le but ultime, c'est créer des richesses et les distribuer de manière équitable entre les différentes parties prenantes pour plus de justice sociale et pour laisser un monde meilleur. Parce que, Alain, le jour qu'on ira retrouver notre créateur, il faut qu'ici-bas, nous laissions sur le sable une trace que le vent de l'histoire ne saura effacer. Et cette trace-là, c'est toucher le cœur des gens, transformer la vie des gens. Et c'est ça le but ultime du mining.
Pour terminer cette émission, Louis Watoum, quel message vous pouvez adresser à tous ces millions d'auditeurs, d'internautes qui vont vous suivre ou qui vous suivent, particulièrement les jeunes, pour la plupart ceux qui sont découragés, en regardant ce qui se passe au pays, se disent « la RDC n'a plus d'espoir, mieux vaut aller ailleurs, il n'y a plus rien à espérer de ce pays ». Qu'est-ce que vous leur dites?
Avant de parler à la jeunesse, j'aimerais d'abord parler à nos autorités pour leur dire que je suis un grand combattant contre la corruption. Parce que le vrai coup de la corruption, d'abord c'est un poison, c'est un cancer, c'est ce qui fait en fait que la grande majorité vivent dans une grande pauvreté, pendant qu'une minorité se la coule douce. Mais le vrai coup de cela, ce n'est pas l'argent qui finit dans leur poche, au lieu de finir dans les escarcelles de l'État. Ça, ce n'est qu'une rubrique dans la corruption. L'autre rubrique, qui est la plus importante, c'est que la corruption empêche justement à tous ces jeunes-là, méritants, d'accéder à des postes auxquels ils méritent. Parce qu'on met des gens qui ne méritent pas. Et parmi ces jeunes-là, qui observent cette injustice, ils font une chose. Ils prennent un petit carnet, qui est parfois vert, ou rouge, ou bleu, qui s'appelle un passeport. Ils prennent un avion, ils s'en vont. C'est la fouille des cerveaux. Ils sont partis. Ça veut dire que le pays qui a investi en eux, 6 ans d'école primaire, secondaire, 6 ans de secondaire, 6 ans d'une, 4 ans, 6 ans d'université, plus de 18 ans, sont partis à l'eau. Et ces jeunes vont aller briller dans d'autres institutions ailleurs, à l'étranger. Et c'est un coût énorme pour notre pays. Et donc, il faut qu'on éradique la corruption, absolument. C'est un cancer. À la jeunesse, je dis ceci. Nous vivons dans un monde aujourd'hui que nous, dans le monde des affaires, nous appelons VICA. VICA, c'est-à-dire V-I-C-A. Parce que le monde aujourd'hui, il est devenu volatile, incertain, complexe et ambigu à la fois. C'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Il y a le réchauffement climatique, il y a la Covid, il y a la guerre en Ukraine, il y a le terrorisme aujourd'hui. Il y a toutes ces choses-là qui font que... Et toutes ces choses nous affectent aujourd'hui, où qu'on soit. Alors dans ce monde, il faut se rappeler certaines valeurs qu'il faut avoir. Et ça, c'est à la jeunesse que je parle. Parce que l'avenir de demain, c'est vous, aujourd'hui. Les pays que nous avons visités dans le monde qui avancent, nous avons constaté que ces pays ont certaines choses en commun. Et ces valeurs, je souhaite vraiment que notre jeunesse puisse les adopter le plus tôt possible. Il y a 4 valeurs, Alain. Nous avons vu les pays qui marchent et les pays qui ne marchent pas. Et celles qui marchent, qu'ils soient en Asie, en Amérique, en Europe, en Afrique, en Australie, partout ailleurs, nous retrouvons 4 valeurs à peu près. La première valeur, c'est le patriotisme. Je dis à la jeunesse, aimez votre pays. Parce que celui qui aime son pays, il le trahit pas. La tragédie qui se passe à l'est aujourd'hui de notre pays, c'est aussi une trahison de ce pays par les propres fils de ce pays. Il faut aimer son pays. Quand vous l'aimez, vous aimez votre compatriote aussi. Vous ne jouez pas au jeu de « ôte-toi que je m'y mette » en l'empoisonnant, en lui faisant des coups bas. Vous ne le faites pas. Donc, aimez votre pays, soyez patriote. La deuxième valeur, c'est l'intégrité. Ces pays ont généralement en commun l'intégrité, c'est-à-dire faire ce qui est correct, même quand personne ne vous regarde. Vous n'avez pas besoin de l'IGF pour obtenir vos comptes en règle. Vous devez avoir une conscience qui vous parle le soir au lit, qui vous dit ce que vous avez fait, ce n'était pas correct. Demain, il faut aller corriger ça, même si personne ne vous a vu. Donc, il y a l'intégrité. La troisième valeur que cette jeunesse à laquelle je m'adresse doit absolument adopter, c'est l'obligation des résultats. Quand vous commencez quelque chose. Dans ces pays-là, lorsqu'on vous confie une tâche et que vous venez avec beaucoup d'explications pour expliquer pourquoi la tâche n'est pas faite, on est très poli, on vous écoute. Ensuite, on cherche quelqu'un d'autre pour le faire. Vous êtes viré, tout simplement. Et enfin, la quatrième vertu ou la quatrième qualité, c'est la méritocratie. Apprenons à mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Nous sommes plus de 100 millions de Congolais aujourd'hui. C'est 100 millions de talents uniques. Aussi uniques que l'empreinte digitale de chacun et chacune. Mais Alain, tu es d'accord avec moi, si ton frigo est en panne, tu ne l'emmènes pas chez un cordonnier. Mais pourquoi lorsqu'on nous donne de gérer la Respublica, nous donnons des postes à des gens qui ne méritent pas? C'est comme si on prenait le frigo de la République pour donner à des cordonniers pour réparer. Et on n'aura pas de résultat pour ça. Voilà les 4 valeurs qu'il faut. Et je souhaite que vraiment la jeunesse montante puisse adopter ces 4 valeurs. On aura un Congo fort et respecté.
Louis Watoum, merci d'être passé à Grand Témoin.
Tout le plaisir était mis, Alain. Merci.
Grand Témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Présentation et coordination Alain Hirong-Mouchige. Supervision et réalisation Jean-Marc Matouaki. À la technique Polydor Basunga. Cette émission, vous pouvez la réécouter, voire la télécharger ou encore d'autres numéros de Grand Témoin en allant sur www.radiocapi.net. Bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix. Au revoir.